à Funch Connection épisode 58. Et cette semaine, on change d'outil. J'ai mes collaborateurs qui font des folies visuellement. C'est tout à fait troublant pour se concentrer. Donc, j'ai Damien.
Bonjour tout le monde. Ben, écoute, j'adore ce petit outil où en plus on peut faire des grimaces au micro.
Oui, puis j'ai été un peu déstabilisé par ça. J'ai Patrick qui fait un retour après déjà un bon bout de temps.
Ouais, mon horaire est un peu poche avec le podcast, mais je suis là aujourd'hui. Salut tout le monde.
C'est une très bonne nouvelle. Et moi-même, Nicolas, qui anime le podcast. On va commencer par les GMS Plug. 27 septembre, Misaka, la gouvernance et la gestion des TI au gouvernement du Québec. Le 28 septembre, Québec Sec, et c'est moi qui présente sur l'architecture d'entreprise, fait que ça existe assez comique.
Ouh!
Ouais, ça arrive pas mal. Le 2-3 novembre, Hackfest, DECAD.
C'est quand?
2-3
novembre.
J'espère
que tes billets.
Oh, à la bonne date.
Ouais, Patrick, la semaine après, ça sera pas drôle.
Patrick, il y a quelques éléments que tu voulais parler de ça justement?
Yes, on a affiché récemment les formations du Hackfest. On en a 5 cette année. On a toujours le Sécurité 101-102 qu'on a créé avec Claude, professeur dans un cégep à Québec, qui offre les intros sur le hacking, les outils et tout. Ensuite, on a iOS Mobile Application Hacking, qui sont de Randy Rosec, je crois. C'est deux Français, Damien. C'est tes collègues. Ou whatever.
Ou Corico.
Ouais! Et ils vont offrir un training sur iOS Mobile. Ensuite, on a HackerOne qui revient, mais pas en tant que HackerOne, mais certains de leurs employés qui viennent offrir Hacking Organization One Step at a Time. Dans le fond, c'est un training de web hacking, mais basé sur le bug bounty. Il devrait être vraiment bon, si certains, ça les intéresse. Et finalement, CSEC qui offre une fois de plus le Assembly Programming for Reverse Engineer. C'est genre 120$, ça inclut la bouffe pendant le training, le café et le billet du Hackfest. Donc, c'est gratuit.
Ça donne envie, encore une fois.
Ouais, ces trainings-là se font avant le Hackfest?
Exact, du 31 et 1er novembre.
C'est très bien. Et finalement, le dernier HMS Plug, le 8 avril 2019, Québec Numérique organise un événement de sécurité qui s'appelle le Secure. Plusieurs nouvelles vont suivre éventuellement. Et nous avons réussi à rassembler la plupart des associations de Québec en sécurité qui vont amener du contenu fort intéressant. Donc, commençons avec les nouvelles. Ransomware raté en France?
Oui, complètement. Les ransomware, on sait, il y en a partout. Il existe même des outils qui permettent de les fabriquer quasiment avec 2-3 clics de souris. Sauf qu'il y a eu une attaque là, cette semaine qui m'a, moi, en tout cas, fait réfléchir dans le principe où le pirate informatique a vraiment réfléchi son attaque. Alors, il a tenté d'attaquer une société qui s'appelle Xerox. Alors, je la cite parce qu'ils ont été particulièrement efficaces en interne. C'est simple, hein. Le pirate a envoyé à l'intégralité des employés de l'entreprise eh bien, un message en leur expliquant que leur mutuelle, eh bien, il fallait qu'elle soit payée. Alors, jusqu'ici, les gens pourraient se faire avoir en cliquant, en ayant cette fausse facture. Sauf que le pirate ne s'est pas contenté d'envoyer un mail massif. Non, il a attaqué le partenaire de la mutuelle de l'entreprise. Je ne sais pas si vous imaginez la réflexion du pirate et donc de son intention de véritablement gagner de l'argent. La mutuelle, la vraie mutuelle de l'entreprise, qui s'appelle GEREP, eh bien, le pirate a attaqué l'un de ses partenaires. Donc, du coup, il a dû mettre la main sur des données, dont les mails, et il a écrit à Xerox en espérant que les employés cliquent et se fassent piéger par ce ransomware. Ça montre quand même aujourd'hui cette professionnalisation de ces escrocs et de cette réflexion qu'ils ont en amont de se dire « J'ai ma cible, voyons voir ce qui tourne autour de cette cible, et puis si j'arrive à trouver cette porte d'entrée, eh bien, croyez-moi, soit vous avez une très bonne équipe, comme c'était le cas des Xerox, soit vous priez et vous mettez un cierge pour que l'attaque ne passe pas.
Ouais, exact. Puis ce qui est intéressant là-dessus, c'est, on en a quand même parlé beaucoup que tous les partenaires, les third parties sont à risque, mais on l'a rarement vu appliquer comme ça en dehors, publiquement. Je ne dis pas que ça n'arrive pas.
Et ça démontre à quel point il y a beaucoup, de plus en plus d'intelligence et de recherche chez les attaquants. Et maintenant, nos petites mesures de base sont peut-être même plus efficaces contre ces techniques-là parce qu'ils sont de plus en plus éduqués et de plus en plus sophistiqués.
Ouais, c'est pour ça que... Pardon, excuse-moi.
Le point, c'est que même les mesures de base, comme tu dis, ils n'existent même pas la plupart du temps.
Et ce qui est important, c'est que la créativité, il faut aussi maintenant clairement qu'elle soit du côté de ceux qui sécurisent. Et là, Xerox a été super efficace. J'ai des employés qui m'ont clairement contacté, qui m'ont alerté, et ça m'a permis de voir que eux en interne, leur DRH, hein, donc la personne qui s'occupe des ressources humaines, une fois que le courrier est envoyé, elle a elle-même alerté l'intégralité des employés, donc du coup, tout le monde est réceptif, réactif. Ils ont alerté leur partenaire, donc ce courtier en mutuelle, qui lui-même a fait ses recherches. Et donc, tout ce petit réseau, eh bien, réussir à faire une jolie barrière face à un autre réseau pirate qui a fait du social engineering en cherchant qui était le partenaire, en faisant du hack, très clairement, ensuite en utilisant des moyens subversifs pour envoyer le courrier, pour piéger. Voilà, on sent que, eh bien, pour répondre à la malveillance qui est en face, il faut exactement avoir la même imagination. Et je pense que grâce à ça, c'est efficace.
Oui, puis l'intégration des choses chez Xerox est très étonnant parce que j'en ai peu vu d'intégration à ce degré-là dans les entreprises jusqu'à présent. Donc, justement, que le DRH soit capable de pivoter rapidement puis d'agir de façon et non de commencer à parler de façon interminable, puis vraiment dans l'action. Puis c'est ça qui a fait, je pense, une différence énorme.
Alors, ce qui est important aussi, c'est de se dire que le RGPD, hein, vous savez, hein, ce règlement sur les données personnelles, impose aussi à tous ces gens maintenant d'être aux aguets. Hein. Imaginez l'ours, le grizzly, l'orignal, eh bien, ils sont là. Ils sont prêts à intervenir à la moindre apparition du loup et du malveillant. Parce que derrière tout ça, c'est des données. Si jamais les données clients de chez Xerox avaient été chiffrées par du ransomware, c'était obligation d'alerter. Là, les mails utilisés, c'est une base de données, donc il faut alerter. La mutuelle, hein, ce courtier, doit aussi se renseigner et alerter parce qu'il y a une fuite de données. Donc, je pense aussi que les lois mises en place imposent un peu ce regard actif. Hein. C'est fini, vous savez, les trois petits singes. Hein. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Là, il faut être proactif et actif, et ça fonctionne.
Oui, puis c'est le fun de voir l'effet positif que le RGPD peut avoir justement sur les actions des gens. Donc, ça revient à dire qu'effectivement, l'élément législatif a un effet réel sur le comportement des gens et est nécessaire dans l'ensemble du globe. Là. Pour nous, en Amérique du Nord, ce serait une chose. Je sais que des lois qui s'en viennent, qui ont mis en application, mais avec un peu moins de mordant que le RGPD. Et de voir ce que l'effet que ça a au niveau européen, je pense que ça va faire école. Là.
Mais je pense que oui, effectivement, le RGPD va faire réagir quasiment tous les pays, hein, parce que maintenant, comme on l'avait dit dernièrement, un Français, un Européen poney, piraté, ou en tout cas malmené dans une base de données à l'étranger, comme au Canada, aux États-Unis, ou peu importe, tout le monde est impacté. Donc je pense que toutes les lois vont être obligées enfin de s'aligner, parce que bon, voilà, la mondialisation du piratage, il y a très longtemps qu'elle est active, et je pense que la mondialisation de la cybersécurité devrait l'être autant, voire plus.
Tout à fait, effectivement. Passons à la nouvelle suivante, qui est un peu un suivi de ce qui a été discuté lors du dernier épisode au niveau de Air Canada. Vincent avait fait mention qu'il y avait eu d'énormes difficultés à aller changer son mot de passe, qui était prévisible au moment où tout le monde s'est garoché et s'est précipité en même temps pour changer leur mot de passe. Donc, le service n'a pas réussi à côté. En attendant quelques jours supplémentaires, ça se change assez bien. J'ai changé le mien avec un mot de passe tout à fait fascinant et très long. Fait que si pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça serait bien d'être fait. Oui, Damien?
Juste un petit détail, c'est quand même très étonnant que plusieurs compagnies aériennes se sont fait pirater là ces derniers temps. Hein. Pour rappel, British Airways a annoncé et avoué que du 21 août au 5 septembre, quelqu'un avait tapé dans sa base de données. Alors, ils essayent de rassurer les gens en disant que les pirates, pendant 15 jours, n'ont volé que 300 000 données. J'espère que c'est véritablement ça. Mais c'est intéressant de voir que les compagnies aériennes, elles sont particulièrement ciblées alors qu'on aurait pu penser qu'elles étaient normalement particulièrement sécurisées.
Mais qui aurait pu croire que pirater Windows XP, c'est dur comme ça?
Mm-hmm. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Mais minimalement, au niveau, la réaction est quand même assez, assez rapide. Donc, on peut leur donner ça au moins. Mais c'est clair que n'importe qui est une cible potentielle. Dès qu'on a de l'information qui peut intéresser quelqu'un, dès qu'on a un trésor quelconque, aussi petit soit-il, ça va intéresser quelqu'un, surtout sur les marchés noirs. Maintenant, tellement de choses se revendent, donc c'est pas surprenant.
En même temps, je veux dire, aucune de ces compagnies-là a mis en place, puis autant eux autres que les grosses banques, et peu importe, là. Il n'y a pas de tout effet à nulle part. Et on se fait encore voler des mots de passe partout. Tout le monde se fait voler leur credentials, puis pas de tout effet. Fait que ça avance pas grand-chose côté sécurité non plus, là.
Ouais, donc culturellement, c'est un peu difficile à faire avancer ce genre de choses-là, mais je sais que tu es dans un domaine particulièrement
Pas mal tout effet.
intéressé à ce genre de choses-là. Je comprends ton intérêt particulier à ça, et effectivement, on
Mais
a.
ça reste qu'au niveau des leaks de données, la manière d'empêcher ça, c'est d'avoir justement un deuxième facteur. Mais comme tu dis, c'est vraiment dur à mettre en place. Mais je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y avait d'autres nouvelles aussi reliées à des jeux en ligne comme, je pense, c'était
Ben, il y avait Google aussi.
Warcraft, Google, puis ouais. Récemment, c'était Fortnite qui donne des mois ou de l'argent gratuit, whatever, des items virtuels gratuits, si tu actives le 2FA. Parce que le gaming aussi, c'est un environnement où ce que le hacking est énorme.
Mais le gaming, c'est un milieu particulier au niveau du piratage. C'est les endroits où, quand j'ai fait des tests de sécurité, où j'ai rencontré les choses avec la sécurité la plus robuste, donc du certificat pinning, tous ces éléments-là, puis on parle de plusieurs années en arrière, parce que eux, leur cœur de leur business, c'est s'assurer qu'il y a une forme d'équité dans l'utilisation. Donc, si tu pirates, tu débalances. Donc, ils vont mettre énormément d'énergie, plus que les banques, pour
Ouais,
protéger
c'est
leurs
ça
choses.
qui
C'est
est
ça qui est
terrible.
fascinant.
Mais surtout qu'en plus, ils brassent des milliards, hein, quand on regarde maintenant dans les jeux vidéo. On achète un jeu vidéo, puis à côté, on peut acheter tout ce qui bouge. Ça brasse des milliards. Je prends juste l'exemple de Call of Duty. J'ai rencontré des mômes qui ont acheté le jeu 70 euros, donc aux alentours de 70 $. Mais ils ont quasiment claqué, acheté pour 300 $ supplémentaires. Je sais pas si vous imaginez, mais ça fait un jeu à 370 $. Mais à ce rythme-là, les gamins, voilà, quoi, c'est fou. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui se brasse. Ils sont pas d'ailleurs les numéro un dans le monde de tout ce qui est ludique, en dépassant même le cinéma.
Effectivement. Donc, ouais. Donc, on va passer à la main suivante. C'est très courte. C'est des routeurs non corrigés, ceux de Microtik dans ce cas-ci. C'est une patch qui était disponible en avril dernier, qui sont massivement utilisés pour faire des attaques vers d'autres choses. C'est un classique, les systèmes non protégés. Puis là, on parle dans ce cas-ci de petits routeurs Microtik, souvent qui sont utilisés par des. Plein de déploiements, semi-entreprises, petites entreprises ou.
PME, pas mal, ouais.
Ouais, dans ce genre de choses-là, fait que c'est généralement des firmes qui ont moins d'argent à investir sur la sécurité, donc sont beaucoup plus vulnérables à ce genre de choses-là. Et on le voit aussi, ça va tomber sur le même genre de choses dans la IoT, on va tomber dans le même genre de pattern négatif et réutilisation de nos infrastructures mal protégées. Ensuite, piratage chez JP Morgan.
Yes, 2014, on a eu un piratage chez JP Morgan Chase qui avait fait en sorte qu'il y a environ 83 millions de comptes qui avaient été volés dans la banque américaine. Et il y avait aussi une douzaine d'autres banques ou institutions financières qui ont été infiltrées. Ça avait créé un gros émoi. Récemment, on a eu une personne de 35 ans, Andrei Tyurin, qui a été transférée à New York, ou ce qui va être détenu, il est arrêté et tout, pour l'attaque de JP Morgan Chase. Puis ça fait un lien avec plusieurs autres personnes qui, eux aussi, ont déjà été arrêtés, là, des Israéliens puis un autre citoyen américain. Mais tout ça pour dire que la personne va être accusée d'à peu près 10 chefs d'accusation, 4 pour piratage informatique. Puis la totale, c'est environ 100 années d'emprisonnement s'il est accusé de tout, ce qui est incroyablement ridicule, mais bon.
Bon,
Ça,
c'est
c'est...
toute la beauté du système pénal américain.
Ouais, on parle US.
C'est l'addition des peines. Ça, c'est un système en ce sens-là. Je trouve que le système canadien est un peu plus cohérent parce que tu te ramasses avec 500 ans de prison.
La prison à vie, hein. Ouais.
Exact, c'est un peu intense. Puis surtout quand ils réussissent pas à faire avoir assez de preuves pour prouver le piratage, ils vont trouver des niaiseries à côté juste pour que la personne ait une dizaine d'années puis qu'elle disparaisse.
Ouais, ben, c'est sûr que c'est important que les mécréants soient épinglés, mais il y a certaines choses à moderniser leur système de justice pénale et entre autres enlever les procès devant le jury pour tout ce qui est pénal. Donc c'est un peu lourd dans le système américain. Là.
Je me souviens bien, ils avaient utilisé le botnet Qbot.
Ça se peut bien, j'ai pas le détail technique, mais gros botnet, ouais.
Ouais, ce que je me souviens, c'était plus de 500 000 PC. C'était gros botnet, ensuite impacté. Enfin, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Donc, bon. Après, on se rend compte que c'est peut-être en plus que des pouces-boutons. Bah, pas les Israéliens à première vue, parce que depuis qu'ils ont été arrêtés, mais ça montre aussi les dégâts que peut faire ce genre d'objet. Hein.
Oui, exact. Puis ils font partie d'un gros réseau. Hein. C'est pas un gars tout seul dans son sous-sol qui décide d'avoir 500 000 PC puis de voler une dizaine de banques américaines. C'est des gros réseaux qui volent beaucoup d'argent puis qui font beaucoup de reventes d'informations. Puis un de la gang s'est fait pogner.
Mais comme tu disais, c'était des banques qui étaient encore sous Windows XP.
Ouais. Et pas de tout effet. Et pas rien.
D'accord, c'est un ouvert-là. Et tant qu'à vrai de protection, il faut également protéger ces informations en papier.
Oui, ben, j'ai voulu revenir un peu sur l'info que vous aviez donnée dans le 57 du podcast. Ça s'était passé pas près de chez moi, à Lille. Hein, vous savez, cette école qui avait jeté toutes les données dans les poubelles. Et puis, je me suis dit, tiens, on parle beaucoup de tutos informatiques, etc. Mais c'est aussi rappeler que la fuite de nos données, c'est énormément par papier. Hein. Alors, je pense que c'est partout pareil dans le monde. Vous allez à l'école, vous avez des enfants. On vous fait remplir des milliards de papiers avec les noms, les prénoms, les téléphones, etc., etc. Et j'ai trouvé quelques petites astuces, en fait, pour retrouver ces documents qui ont peut-être été scannés et laissés quelque part dans le WordPress de l'école ou de l'association dans laquelle vous êtes inscrit. Et parmi les petites techniques, moi, j'en ai une qui est le principe du code-barre. Alors, je m'explique. Vous avez un document. Alors, on va prendre l'école. Vous avez rempli l'intégralité de la vie de vos enfants sur ces papiers. Eh bien, moi, je mets des petits bâtons. Alors, le principe, par exemple, l'école de ma fille, eh bien, ça sera deux bâtons, trois bâtons, un bâton. Et ça, je le note dans un calepin à la maison. Et si jamais, et je l'ai vu en fait l'année dernière, hein, c'est pour ça que j'utilise ces méthodes, si jamais l'école scanne le document et le met sur son WordPress en stockage pour je ne sais quelle raison, eh bien, si jamais ce papier, je le vois ressortir dans Google ou ailleurs, mes petits bâtons me rappelleront d'où viennent ces documents. Alors, je vous ai fait une petite dizaine de possibilités hein, sur Zaptaz. Alors, il y a les petits bâtons, il y a aussi noircir les lettres. C'est tout idiot, hein, mais dans les textes proposés dans les documents, je noircis les zéros ou les O. Alors, par exemple, une association, hein, je pratique les arts martiaux, l'association pour là où je suis pour le karaté, eh bien, j'ai noirci 9 O. Et donc, du coup, si jamais ce document ressortait je ne sais trop où et pour quelle raison, et que je puisse y mettre la main, qu'il n'y ait plus le logo de là où ça a été volé ou ailleurs, les petits O noircis me diront « Ah bah tiens, là, ça vient de l'association sportive » ou « Ça vient de l'école de musique ». C'est des petits trucs idiots, mais comme toutes ces associations, ces écoles, ces entreprises ont oublié que le meilleur moyen de détruire nos documents, c'est de les détruire avec une machine dédiée ou de les brûler, et que ces informations peuvent finir dans une poubelle, hein, comme vous l'expliquiez dans le dernier podcast, c'est aussi un moyen physique de protéger nos documents.
Ben, c'est une façon d'arracher, c'est ça, en forme de stégano dans le document, des informations que tu es capable de retracer jusqu'à toi.
Stégano de la vie réelle, cool.
Ouais.
On t'entend plus, mon ami.
Ça y est. Alors, comme je disais, oui, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que vous prenez simplement Google et vous tapez certains dorks et vous avez des centaines, des milliers de cartes nationales d'identité qui apparaissent, de passeports. Tout ça pourquoi? Parce que un jour, une association, une école ou je ne sais trop qui s'est dit « Oh, mon WordPress, mon Joomla, mais ce n'est pas qu'un site internet, je vais tout stocker dedans. » Voilà, c'est indispensable. On parle tellement des bases de données volées par les dangereux pirates de la Corée du Nord, on oublie juste son voisin avec son club d'association de bridge, de boule, de je ne sais trop quoi, qui sauvegarde en toute bonne foi et qui ne comprend pas après que tout ça peut finir dans de mauvaises mains. J'ai énormément de black market que je surveille, qui font de la contrefaçon de pièces d'identité. Ça serait quand même dommage de finir sur un faux passeport, quoi.
Ouais, puis ça me fait penser à une petite histoire de mon côté. Il y a à peu près 2 mois, il était sorti l'engin de recherche dans les buckets S3, qui avait fait la manchette et tout. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont passé du temps là-dessus. J'en ai mis un peu, puis je suis tombé sur des entreprises, que des applications mobiles ou web même pour scanner des, mettons, tes invoices ou tes chèques quand tu vas au restaurant et tout. Fait que tu scannes ça dans l'application. C'était uploadé dans des S3 buckets ouverts au public. Dans ça, il y avait, je sais pas, c'était des centaines de milliers là, de pages, de documents dans l'engin de recherche. Puis tu avais des documents de taxes, d'impôts, de peu importe, là, le monde scannait n'importe quoi, puis c'était relié à de la finance. Mm-hmm. Fait que j'ai créé la compagnie Responsible Disclosure, je leur ai dit, je pense qu'il faudrait que vous bloquiez ça. Ça leur a pris à peu près 2 mois, j'ai reçu la réponse récemment, pour aller se loguer sur Amazon et cliquer sur « Make Private ».
C'est ça. Mais je crois qu'on en avait parlé dans le podcast 53 ou 54, justement. Mm-hmm. C'était Grade at Amazon. C'est fou. C'est fou parce que c'est pas comme si on n'avait pas parlé depuis 4-5 ans de ces fuites qui passent par ce cloud, hein, ou qui, mal configuré, après, recrache toutes les informations. C'est dingue. C'est complètement fou de se dire que il y a quand même des RSSI, des DSI qui sont largement payés pour dire les sites et pour lire les sites internet et les magazines pour se tenir informés. Une revue de presse de la cybersécurité, tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que très peu de gens en font quand même.
De ça, mais je pense que les gens prennent pas ça au sérieux. On revient toujours, les gens prennent pas ça au sérieux. Même dans les écoles, mes enfants, il y a certaines occasions où j'ai dû rappeler les professeurs à l'ordre sur des comportements qui mettaient en danger l'information de mes enfants. Donc, c'est un peu... on parle de mécanisation avec AWS, mais utilise Google Sheet pour stocker des informations dans un Google Sheet public avec plein d'informations qui tombaient en de mauvaises mains peut...
Non, mais c'est trop compliqué de partager le fichier. Il faut qu'ils mettent l'URL public.
Ah non, c'est ça. Ben, c'est un cas, justement, par exemple, où effectivement, elle a eu tellement de misère à partager le fichier avec les parents qu'elle l'a mis public. Vous saurez que j'étais quelque peu fâché et qu'elle a eu, elle a eu droit à ma bonne humeur. Passons à la nouvelle suivante. Celle-ci était un peu positive pour les chercheurs en sécu. Tesla a ouvert ou mentionné le fait qu'il autorisait une certaine forme de piratage ou de sécurité de leur voiture. Puis si on brique la voiture en caisson, ils permettent de la débriquer, donc de la rendre de nouveau fonctionnelle. Cela dit, il y a certains canevas qui suivent ça, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire au plan de test, donc il faut être autorisé. Et si on ne fait pas ça, c'est foutu, on va être pénalisé. On paye tous les frais associés au déplacement du véhicule qui est briqué, parce qu'il faut l'amener chez le concessionnaire pour le débriquer. Et il y a dans les petits caractères, il y a seulement un certain nombre de fois qui est autorisé au fait de se faire débriquer. Donc, oui, il y a de l'ouverture. C'est intéressant de voir que Tesla, ce degré d'ouverture-là, j'espère que ça va avoir un effet positif sur l'ensemble des autres fabricants automobiles. Mais il y a des canevas, fait qu'on ne se lance pas à tête baissée là-dedans parce qu'on a une Tesla, puis ça nous tend de la tester.
Surtout que je suis impatient de voir quand même comment vont réagir les assureurs. Oui, Tesla m'a autorisé à modifier ma voiture. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais tout va bien. Hein. À suivre.
Ouais, il y a d'autres axes à ça qu'on n'a pas encore mesuré à ce point-là. C'est sûr que c'est pas nécessairement rassurant. De ce que je connais des assureurs, pour le moment, je pense pas qu'ils vont, ou en tout cas, si on ne faut peut-être pas le déclarer, mais on revient un peu aux mêmes réflexions quand on modifie des automobiles.
Ouais, ça va être du tuning côté assurance, je crois, là.
Ouais, fait qu'il va y avoir des surprimes assez importantes qui vont être associées à ce genre de choses-là. Donc, c'est, oui, clairement, c'est comme de dire à son assureur qu'on utilise son auto pour faire de la piste. Ça, généralement, il aime pas beaucoup ça. Puis, généralement, les primes vont augmenter de façon spectaculaire. Ou, si t'en fais, puis il faut pas que tu le dises, puis il faut pas que tu te fasses pogner, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu brises ton auto sur une piste. Fait que là, tu vas. Ton assureur va être très, très fâché de cette circonstance-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une déclaration à faire au niveau des assureurs pour s'assurer que. Les assurances ont beaucoup d'assurances. Ça complète les nouvelles pour cette semaine. Messieurs, quelque chose pour un mot de la fin?
Ouais, j'avais une petite date que j'ai complètement oubliée tout à l'heure, j'avoue. Ben, on va quand même parler de ce qui se passe un peu en Europe. Et là, je vais, comme tu parlais du mois d'avril 2019, un tout petit peu plus tôt, ça sera le 22 et 23 janvier 2019, donc à Lille, donc chez moi. Hein. Ça va être le FIC, le Forum international de la cybersécurité. Donc, on fera tout.
Patrick, c'est un cas, un cul. Hein. Le fait que oui, et d'ailleurs, sera... c'est dans mes projets de y aller cette, bon, en tout cas, l'année prochaine, là, la prochaine édition. Là.
Ah, ça serait sympa, c'est qu'on puisse se faire un petit direct. Hein, ça pourrait être intéressant, ou en tout cas, se faire un petit podcast. Et donc, cette année, ça devrait être intéressant, d'autant plus qu'il va y avoir du beau monde, dont Maria Gabriel, c'est la commissaire européenne de l'économie et de la société numérique qui va y venir. Donc, ça sera intéressant éventuellement d'écouter ce qu'a à dire maintenant ce genre de personnalité européenne. Et si tout va bien, je devrais normalement animer encore cette année, ce sera pour la cinquième année, le challenge d'Ethical Hacking. Donc c'est des universités plus qui veut participer et c'est organisé par des étudiants de la CDSI, c'est un C'est un IUT, donc c'est une université à Maubeuge, dans le nord de la France, un petit peu plus au sud de Lille, qui sont les étudiants qui mettent tout ça en place. Et en fait, ça fait partie de leur projet de diplôme. Et donc, c'est plutôt intéressant de confronter étudiants, monde de l'entreprise et cybersécurité. Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, hein, si tout le monde se tient à la main, permet de faire ce beau cocon humain de cybersécurité, ça pourrait permettre de encore mieux se protéger.
Tout à fait.
Ouais.
Voilà.
Donc, ça complète cet épisode. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine.
Eh bien, pareillement.
Yes.
Et comme on dit en France, bisous.